À quelques jours de la première édition de la journée mondiale de l'abeille qui s'est tenue, hier le tribunal de l'Union européenne a confirmé la semaine dernière les restrictions d'utilisation imposées en 2013 à trois néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, ce sont ces insecticides jugés en partie responsables de la disparition des abeilles. Fin avril déjà, l'Union européenne avait élargi les champs d'application de leur interdiction. Mais pour les abeilles, est-ce déjà trop tard? Bonjour Gérard Arnold.
Bonjour.
Vous êtes biologiste des abeilles et directeur de recherche émérite au CNRS. Pourquoi les abeilles aujourd'hui vont-elles si mal? Est-ce les conséquences, donc après tant d'années d'utilisation, de ces fameux insecticides néonicotinoïdes?
Alors, pas complètement, bien entendu. Alors, quand on parle d'abeilles, il faut quand même distinguer deux choses. D'abord, l'abeille domestique, qui est sociale et qui vit dans les ruches des apiculteurs, et les centaines d'espèces d'abeilles solitaires et sauvages qui vivent en France et plusieurs milliers dans le monde. Donc je ne pense pas que l'abeille domestique puisse disparaître dans le monde, mais sa biodiversité, qui fait sa richesse, est très menacée. Et donc il y a même sûrement plusieurs facteurs qui peuvent provoquer un déclin des abeilles, domestiques ou sauvages. Parmi eux, les insecticides, bien entendu. Il y a également certains pathogènes, certains acariens parasites comme varroa ou même le frelon asiatique.
Et on assiste aujourd'hui à des scènes qui sont des scènes étonnantes. On a vu, c'est un film qui a été très largement diffusé sur les réseaux sociaux, un apiculteur montrer par exemple dans quel état était sa ruche. Est-ce véritablement quelque chose de nouveau ou bien est-ce un phénomène déjà ancien, même si on n'y prêtait pas attention?
Alors il y a eu de tout temps des mortalités d'abeilles, mais depuis une vingtaine d'années, on considère généralement qu'il y a une surmortalité très importante, qui peut être autour de 30% dans chaque pays. Et évidemment, 30% c'est énorme. Aucun éleveur d'animaux domestiques n'accepterait une telle mortalité. Donc ça s'est accentué dans le temps, c'est sûr, depuis à peu près une vingtaine d'années.
Ah oui, donc c'est véritablement quelque chose de nouveau. Comment les néonicotinoïdes agissent-ils sur les abeilles? Quelles sont leurs conséquences?
Alors, il n'y a pas que les néonicotinoïdes, hein. Je vais vous répondre à votre question, mais il y a des centaines de molécules qui sont utilisées et qui peuvent également avoir un rôle, en particulier par leur synergie, sur les abeilles. Alors, concernant les néonicotinoïdes, ce sont des neurotoxiques qui agissent directement sur le cerveau de l'abeille, sur les récepteurs à l'acétylcholine, et qui provoquent des troubles de la physiologie des abeilles ou de ses comportements. Par exemple, une abeille exposée à un néonicotinoïde peut perdre le sens de l'orientation et ne plus revenir à sa ruche et donc mourir dans la nature. Mais il y a d'autres exemples possibles d'effets de ces molécules. On considère généralement qu'il y a plusieurs sortes de toxicité. La toxicité aiguë, qui va tuer les abeilles et les insectes dans un délai très court, mais également la toxicité chronique, c'est-à-dire le fait d'ingérer des petites quantités répétées de nectar ou de pollen imprégné par ces néonicotinoïdes, et puis les effets sur le comportement, comme je viens de l'expliquer avant, qui peuvent permettre leur mortalité dans des délais très brefs.
Alors justement, et les autres molécules, puisque vous évoquez également la possibilité que d'autres molécules interagissent, Gérard Arnold?
Alors le gros problème actuellement, et depuis déjà très longtemps, c'est que les molécules qui sont actuellement sur le marché, les pesticides, n'ont pas été évaluées correctement quant à leur toxicité pour les abeilles ou en général ou les insectes ou même les autres animaux. Et donc c'est ça qu'il faut absolument régler maintenant, c'est très urgent. Avant l'autorisation des pesticides et leur mise sur le marché, il faut renforcer les études de toxicité de ces molécules pour l'environnement, pour la santé humaine même.
Mais alors s'il s'agit de combinaisons, parce que vous parlez de 300 substances, ça va être extrêmement compliqué de voir dans quelle mesure des combinaisons de 300 substances, alors pas la totalité, mais en tout cas une partie d'entre elles, peuvent être nocives pour les abeilles.
Alors, toutes les 300 substances, d'ailleurs il y en a beaucoup plus que ça, mais on considère généralement qu'une ruche est exposé à environ 200 molécules dans la nature. Alors la plupart peuvent ne pas être toxiques, mais les interactions entre ces molécules peuvent l'être. Et la question pour les autorisations, c'est déjà de tester la toxicité des substances une par une. Si une substance n'est pas toxique du tout, il n'y a aucune raison qu'elle agisse ensuite de manière néfaste sur les abeilles. Mais il faut reprendre tout le système, toutes les évaluations des substances qui sont actuellement autorisées, avec des tests qui permettent de dire vraiment est-ce que oui ou non c'est toxique pour les abeilles.
Oui, ça veut dire que les processus d'homologation ont été mal faits.
Tout à fait, c'est ça. Ils ont été mal faits. Et le problème, quand on autorise une molécule et qu'ensuite on veut l'interdire parce que elle se révèle toxique, c'est que ça prend beaucoup de temps. Mm-hmm. Une vingtaine d'années, par exemple, dans le cas des trois néonicotinoïdes, comme j'ai expliqué dans un article récent dans The Conversation, un article en français, il a fallu 20 ans. Depuis les premières alertes en 94-95 en France sur la culture du tournesol, jusque la décision récente de la Commission. 20 ans, c'est énorme. Évidemment, pendant 20 ans, des dégâts importants peuvent être faits dans l'environnement. Donc il faut absolument que les pesticides soient mieux évalués avant leur autorisation et que s'il y a des problèmes qui apparaissent néanmoins, le temps de rétraction doit être beaucoup raccourci.
Et oui, et alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit notamment donc pour ceux qui connaissent des apiculteurs, ce qui est mon cas, ceux-ci se plaignent beaucoup parce que la production des ruches a chuté, les attentions exigées par les ruches, elles, ont augmenté. Apparemment, il y a beaucoup plus de travail. Est-ce que tout ça s'explique ?
Alors, comme je le disais dès le début, il ne faut pas incriminer uniquement les pesticides, et en particulier les néonicotinoïdes. Il y a également l'acarien varroa qui a des conséquences très néfastes sur les colonies. Le problème, c'est qu'il y a des interactions entre tous les facteurs. Une colonie affaiblie, par exemple, par des pesticides, va être plus sensible à un pathogène, à un agent pathogène, ou au développement des virus, de varroa, etc. Donc, tout le système est lié. Alors, une des premières étapes, puisque c'est plus difficile de lutter contre les maladies, c'est déjà de s'assurer que les pesticides sur le marché, actuellement, ne provoquent pas d'affaiblissement des colonies, de l'immunité des colonies, si vous voulez, de leurs moyens de défense, pour ensuite faire face à tous les agents infectieux et parasites. Donc le problème, c'est de commencer par cette solution qu'on propose, c'est ça, de bien homologuer les pesticides, d'enlever ceux qui sont toxiques, et après on fera le point sur les moyens de traiter les pathologies.
Merci beaucoup Gérard Arnold. Je rappelle que vous êtes biologiste des abeilles et directeur de recherche émérite au CNRS. Il est 7h24 sur France Culture.